Les nuits, le jour. Alban Penaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Thomas Jost, Hassan Mbechour. Les nuits, le jour. Notre visite dominicale dans les archives de l'INA. Bonjour à tous. Avant le programme d'archives par lequel nous rendrons hommage samedi prochain à Marcel Pagnol, mort il y a 50 ans cette année, nous écouterons François Perrier lire « La tragédie de l'agneau », un texte de Pagnol dans l'émission « Bonne nouvelle, grand comédien » en 1971. Mais avant cela, la parole est à la nuit avec Marcel Pagnol le 7 janvier 1956 sur la chaîne parisienne.
Les nuits de France Culture.
En 1956, Luc Bérimont proposait dans « La parole est à la nuit » aux auditeurs de la chaîne parisienne une rencontre avec Marcel Pagnol. Agrémenté d'extraits de la trilogie « Marius, Fanny et César » et d'extraits de Topaze, Marcel Pagnol y parlait de la probable origine espagnole de son nom et évoquait la personnalité de son père, instituteur, dont il s'était inspiré pour écrire Topaze. Une rencontre durant laquelle Marcel Pagnol racontait comment il s'était pris de passion pour le cinéma à l'époque du tournage de Marius, réalisé par Alexander Korda, en réaffirmant qu'il n'existait pas, selon lui, de différence de nature essentielle entre l'art dramatique et le cinéma. Une archive qui valait notamment par l'extrait surprenant que l'on y entendait de Fanny dans la version musicale créée par Joshua Logan en 1954 à Broadway. Une émission diffusée le 7 janvier 1956 sur la chaîne parisienne.
Dans le cadre de l'émission « La parole est à la nuit », Luc Bérimont présente Marcel Pagnol. Un film enquête radiophonique réalisé avec le concours de Jacques Bureau et Francis Gastambide. Mise en onde, Bernard Gandréretti. Avec les voix de Rému, Pierre Freinet, Oran de Mazis, Charpin, Mouriès, Dulac, dans des extraits de la trilogie Marius, Fanny, César, et celle d'André Lefort dans des extraits de Topaze. Collaboration artistique Anne Spies, assistante Hélène Delabrusse.
C'est le courrier de Saïgon.
Marius, ça siffle.
C'est le courrier de Saïgon.
Eh non, idiot, c'est le percolateur.
Oh, pardon.
Marius.
Oh.
C'est toi qui offres le café?
Oui.
Bon.
Tu as envie de tasse? Je viens de le faire.
Non.
Pourquoi?
Parce que si nous buvons tout gratis, il restera plus rien pour les clients.
Oh, tu vas pas pleurer pour une tasse de café, dis.
C'est pas pour le café, c'est pour la manière.
Quelle manière?
De boire le magasin pendant que je dors.
Si à 23 ans, je peux pas offrir une tasse de café, qu'est-ce que je suis, moi?
Un enfant qui doit obéir à son père.
À 23 ans?
Oui, monsieur, moi, il a fallu que j'attende à l'âge de 32 ans pour que mon père me donne son dernier coup de pied derrière. Voilà ce que c'était que la famille de mon temps. On avait du respect et de la tendresse.
venus. Attablés dans ce bistrot du vieux port, avec leur tendresse, leur humanité, leur humour, si vrai, si présent, si charnel, que l'on ne peut se résigner à croire que ce sont là des comédiens qui jouent un rôle. Ils sont tous venus, échappés des quatre points de l'horizon, certains remontés de la nuit, mais toujours exacts à chanter le grand poème de l'amour et de la mer. Ils ont appris à vivre avec chacune de ces paroles.
Si cet homme veut naviguer, vous n'avez pas le droit de l'en empêcher.
Mais s'il veut naviguer, qu'il navigue. Le bon Dieu qui navigue où il voudra, mais pas sur l'eau.
Mais alors, où veux-tu qu'il navigue?
Je veux dire, pas sur la mer, qu'il navigue comme toi, tiens, sur le vieux port, là. Ou sur les rivières, ou sur les étangs, ou... Et puis, non, t'as Dieu, est-ce qu'on a besoin de naviguer pour vivre? Hein? Monsieur Panisque, est-ce qu'il navigue, lui? Non, pas si bête. Lui, il fait des voiles. Il fait des voiles pour que le vent emporte les enfants des autres.
Conversation au bord de la Méditerranée. Les petites vagues écumantes et deux promeneurs, deux hommes qui flânent en regardant tomber la nuit. Le jeu des questions, des souvenirs.
Pagnol. Pagnol, c'est un beau nom sonore plein de soleil et d'eau. On y entend en quelque sorte bouger la mer. Mais est-ce que c'est exactement un nom de la région?
Je crois, et j'ai d'ailleurs d'assez bonnes raisons pour ça, que c'est un nom d'origine espagnole. N'est-ce pas? J'ai retrouvé dans la mairie de Valréas toute une série de pagnols. Et avant eux, il y avait Spagnol, et avant, il y avait l'Espagnol. Et on m'a dit là-bas dans la famille que nos ancêtres étaient venus d'Espagne et que c'était des armuriers qui trempaient des épées à Valréas, dans l'Ouvèze, qui est une petite rivière là-bas. Puis alors, ils ont été armuriers jusqu'au moment des mousquets, où ils ont commencé à fabriquer des mousquets. Puis lorsque sont venus les fusils, ils se sont mis à faire des cartouches. Puis peu à peu, ils ont fini par faire le carton des cartouches. Et il reste maintenant des pagnols cartonniers. Il n'y a plus d'armuriers.
C'est-à-dire qu'ils évoluent avec leur temps.
Ils ont évolué avec leur temps, puis peut-être aussi avec les partages de famille. Alors moi, je suis né à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. C'est une très petite ville où mon père était instituteur. Car vous savez, dans les écoles normales d'instituteurs, à la fin de leurs études, il y a une espèce d'éclatement de la promotion. C'est-à-dire qu'on les envoie aux limites du département. Et ils passent leur vie à ramper vers le centre pour revenir dans la grande ville. Alors, comme mon père était très jeune, ils étaient encore à Aubagne lorsque je suis né.
Mais pouvez-vous nous parler du caractère de votre père et des influences que vous avez reçues de son éducation?
Mon père n'était pas pieux du tout, au contraire. Et pourtant, il avait une mentalité de pasteur protestant. Il m'a élevé très sévèrement. Je ne veux pas dire qu'il me battait, loin de là. Mais enfin, avec une morale très stricte. Et je me souviens qu'un jour, un ouvrier est venu lui offrir une petite statuette qui valait bien à l'époque 2 ou 3 francs, parce que son fils avait été reçu au certificat d'études. Mon père l'a presque chassé de la maison en disant que c'était une corruption. C'est de là que j'ai pris le caractère de Topaz au premier acte, en le grossissant naturellement pour l'optique du théâtre.
Messieurs, la classe est commencée. Monsieur Jusserand, aujourd'hui encore, vous avez négligé d'arracher la feuille quotidienne. Je vous retire donc le calendrier.
Oh ben vrai.
Quoi, oh ben vrai? Ça veut dire ça, oh ben vrai. Allons, allons, allons. Monsieur Blondet, vos notes de cette semaine sont excellentes. Je vous confie le calendrier. Dépouillez-le donc aussitôt de sa feuille périmée.
Merci, monsieur.
Demain matin, de 8h30 à 9h30, composition de morale. Inscrivez, je vous prie, la date de ce concours sur vos cahiers de texte individuels, tandis que je l'inscris au tableau noir. Élève Tronche-Bobine. Ah, monsieur Tronche-Bobine. Pour réussir dans la vie, c'est-à-dire... pour y occuper une situation qui corresponde à votre mérite, que faut-il faire?
Il faut faire attention.
Oui, si vous voulez. Et il faut faire attention à quoi?
Au courant d'air.
Alors, silence, silence. Élève tronche, ce que vous dites n'est pas complètement absurde puisque vous répétez un conseil que vous a donné madame votre mère. Mais vous ne touchez pas le fond même de la question. Voyons, pour réussir dans la vie, il faut être... Silence, silence, silence. Laissez parler celui que j'interroge. Voyons, élève tronche, votre dernière note fut un zéro. Essayez de l'améliorer. Voyons, pour réussir dans la vie, il faut être...
Horrible.
Silence. Zéro. Asseyez-vous. Il faut être honnête. Supposons maintenant que, par extraordinaire, un malhonnête homme ait réussi à s'enrichir. Représentons-nous cet homme jouissant d'un luxe mal gagné. Il est admirablement vêtu, il a de plus une servante qui ne fait que la cuisine et un domestique spécialiste pour conduire son automobile. Cet homme a-t-il des amis?
Oui, il a des amis.
Ah ah, vous croyez qu'il a des amis?
Oui, il a beaucoup d'amis.
Oui? Et pourquoi aurait-il des amis?
Pour monter dans son automobile.
Non, monsieur Cordier, non. L'homme dont nous parlons n'a point d'amis. On lui tourne le dos, on le fumie comme un pestiféré. Alors, que fait-il?
Il déménage.
Peut-être. Mais qu'arrivera-t-il dans sa nouvelle résidence?
Ça s'arrangera.
Non, monsieur Durand-Victor, non, ça ne peut pas s'arranger. Parce que quoi qu'il fasse, où qu'il aille, il lui manquera toujours l'approbation de sa cons...
De...
Allons,
la de... concierge.
Silence. Monsieur Pitard-Vergnol, j'aime à croire que cette réponse saugrenue n'était pas préméditée. Et vous pourriez réfléchir avant de parler. Vous eussiez ainsi évité un zéro qui va porter à votre moyenne un coup sensible. Il lui manquera toujours l'approbation de sa conscience. Alors, tourmenté jour et nuit, pâle, amaigri, exténué, pour retrouver enfin la paix et la joie, il distribuera aux pauvres toute sa fortune, parce qu'il aura compris que...
Bien mal acquis ne profite jamais.
Bien, et que...
L'argent ne fait pas le bonheur.
Mon père aussi disait que l'alcool était un poison mortel. Et il me le disait même quand j'avais 3 ans. Si bien que lorsque je passais dans la rue avec ma mère qui me traînait par la main, je regardais les terrasses de café où il y avait des gens qui buvaient des apéritifs et je voulais rester un moment pour avoir tombé un mort. Mais il n'en est jamais mort aucun. Et c'est ça qui a commencé à ébranler un peu ma croyance absolue dans ce que disait mon père.
Mais quelle a été la réaction de votre père au moment où vous lui avez soumis le manuscrit de Topaz? S'est-il reconnu?
Non, je ne lui ai même pas montré. Je ne lui ai pas montré le manuscrit de Topaz. J'écrivais un peu en cachette sans rien dire à ma famille, n'est-ce pas? J'étais à ce moment-là professeur adjoint au lycée Condorcet. Et mon père ne savait pas que je faisais des pièces. Et lorsqu'il a appris que j'allais quitter l'université, il est venu à Paris me voir et il m'a dit « Mais alors, de quoi vis-tu ?» Parce qu'il ne savait pas que des pièces de théâtre rapportaient des droits d'auteur. Et d'ailleurs, il n'avait pas trouvé très juste. Il pensait que la gloire était un paiement suffisant.
Mais dans vos pièces, est-ce que vous êtes toujours attaché à dépeindre des personnages que vous avez côtoyés?
Oh oui, parce que vous savez, on n'invente rien. D'ailleurs, oui, on invente bien des choses, parce qu'on invente des jamais bons. D'ailleurs, on ne peut pas prendre un personnage tout entier et le mettre en scène, n'est-ce pas? C'est comme une conversation. Si on transporte une conversation telle qu'elle sur la scène, elle est extrêmement ennuyeuse. Et un personnage ordinaire, tout entier, ne serait pas intéressant. On fabrique des personnages sans le vouloir par la fusion de plusieurs personnes que l'on a connues. Je ne sais pas comment se fait ce mécanisme. Je sais qu'il se fait.
Est-ce que vous pensez que vos origines méditerranéennes vous aident dans ce travail d'imagination qui est toute création littéraire?
Écoutez, moi je suis un méditerranéen, en somme de la Haute-Provence, n'est-ce pas? C'est-à-dire pas tout à fait méditerranéen, c'est plutôt la Provence des collines. Et il y a presque 2 races très différentes
Malte.
C'est-à-dire que sur la côte, il y a les descendants des Phéniciens et des Grecs, qui sont plutôt des Orientaux. Tandis que du côté d'Arles, Valréas, Orange, ce sont vraiment les Gallo-Romains. La race n'est pas absolument pure parce qu'il y a un peu d'Arabe, à cause des invasions sarrasines. Et c'est ça qui fait les si beaux yeux des filles d'Arles. Mais Rému, par exemple, était un Méditerranéen véritable. C'était un Phénicien. Rému avait une barbe extrêmement noire, et je suis sûr que s'il l'avait laissé pousser, il aurait ressemblé à un sourbe nirpal. Et il avait cette énorme voix, n'est-ce pas, et avec une tendance à l'embonpoint. Il s'appelait Murer, Rému. Et vous savez qu'il avait un caractère quelquefois insupportable. Il n'a jamais été méchant, pas du tout, mais il était insupportable. Et alors, un jour, j'ai appris qu'il s'appelait Murer. Je suis allé le trouver tout de suite chez lui, lui dire, dis donc, je viens de découvrir une chose, tu t'appelles Murer. Il me dit, oui. Je lui dis, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Il me dit, non, pas du tout. Je dis, bien, en provençal, ça veut dire mouraire. Mouraire, c'est celui qui fait le mour. C'est-à-dire que ça veut dire, finalement, si vous me permettez le mot, ça veut dire emmerdeur. Il en avait été ravi, d'ailleurs. Et il m'avait dit, mon père était encore pire que moi. Il dit, un jour que le beefsteak n'était pas assez cuit, mon père a giflé ma mère avec ses beefsteaks, disait Rému. Ce qui, d'après lui, était le comble de l'humour.
Écoutez-moi bien. Il y a une question que je veux vous poser, une question très grave. Est-ce que vraiment je suis coléreux? Quoi,
Je fais
Et toi, Escartefille, pourquoi tu ne réponds pas?
Mon cher, je ne suis pas bon juge. Depuis 65 ans que tu es au monde, tu dois bien savoir ce que tu es.
Ça, ce n'est pas prouvé.
On ne sait pas toujours ce qu'on est. Il y en a qui sont cocus, qui ne le savent pas.
Oui, à moins que leurs amis ne leur disent 10 fois par jour.
Oh, 10 fois par jour. C'est la première fois que je t'en parle depuis une semaine. Mais réponds à ma question. Depuis tout à l'heure, je me demande avec angoisse si je n'ai pas commis de graves erreurs, si je n'ai pas été injuste, si je ne suis pas en somme une vieille bête, et si tout ça ne viendrait pas d'une tendance maladive à me mettre en colère.
Tu as dit maladive? Par conséquent, ça regarde le docteur. Allons, docteur, réponds-lui.
Et toi, tu ne peux pas me répondre?
Et je craindrais de me tromper, moi.
Et tu ris comme un imbécile. Comment un ami de 30 ans vient te poser une question grave, une question venue du cœur, et tu réponds par des ricanements?
César!
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce rire? Ça veut dire que je suis une vieille bourrique.
Allons, César.
Comme par ton refus de me répondre, tu fais semblant de dire, sans le dire, que je suis coléreux et que tu as peur de ma colère. Et vous aussi, monsieur Brun, vous ne répondez rien, mais vous faites semblant d'en penser le double. Quant à Hum, avec son air supérieur, je me fous de ce qu'il ne dit pas, de sa coqueluche et des vieillards. Mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Depuis 30 ans, vous venez chez moi tous les jours et vous dites que je suis coléreux? Je supporte la stupidité des Scartefigues et vous dites que je suis coléreux? Je supporte les lyonnaiseries de M. Brun et vous dites que je suis coléreux? Je supporte le silence de ce médecin des chèvres et vous dites que je suis coléreux? Je supporte la présence de ce petit macaque, ce chauffeur, qui ne fait jamais ses consommations et qui de plus ne boit jamais rien et vous dites que je suis coléreux? Ce petit macaque, là, hier, je lui dis, tiens, sers-moi un piquant. Il me sert un piquant. Je lui dis, donne-moi de l'eau de Cels. Il prend le l'eau de Cels. Il la pisse sur le siphon et il me le fait pisser dans la figure et vous dites que je suis coléreux?
Non, il n'est certainement pas coléreux et il nous le prouve.
C'est vrai, au fond, que je suis coléreux.
Eh bien, merci, Pagnol. Je crois qu'en parlant de Topaz, nous avons sauté délibérément certains obstacles, car Topaz n'est pas votre première pièce. Votre première œuvre dramatique est Les Marchands de Gloire.
Oui, c'est un très bon et très mauvais souvenir, Les Marchands de Gloire, n'est-ce pas? C'est une pièce que j'ai faite avec mon ami Paul Nivois. En 1924, nous avons fini la pièce, mais sur des petits bouts de papier. Et un beau jour, Nivois, qui était rédacteur à Comédia, vient me chercher à Condorcet et me dit, il y a Trébor et Brûlé qui veulent lire notre pièce. Trébor et Brûlé venaient de construire le Théâtre de la Madeleine. Nous n'avions pas de manuscrit convenable à leur montrer. Alors, Nivois me dit, ne t'inquiète pas, on va arranger ça. Il alla à Comédia, où il vola une machine à écrire, et il emporta chez lui, rue Têtebout, je me souviens, au rez-de-chaussée. Et pendant toute la nuit, je lui ai dicté le texte des Marchands de Gloire. Et il tapait avec une vitesse admirable parce qu'il avait été dactylographe dans l'armée. Et nous avons fini le matin vers 5 heures du matin. Et alors il était épuisé. Il a fallu tremper ses mains dans de l'eau chaude parce qu'il était paralysé. Et nous sommes sortis pour aller boire un café crème, un petit bistrot de la rue Têtebout. Et sur le trottoir, il y avait le concierge qui était déjà en train d'arroser le trottoir et de balayer. C'était en été. Alors le concierge lui a dit, monsieur Nivois, qu'est-ce que vous avez fait cette nuit? On a entendu un bruit comme des noix qui roulent dans un escalier, qu'est-ce que vous avez fait? Et alors Nivois lui a dit, nous avons tapé une pièce de théâtre. Et moi j'ai dit au concierge, oui, parce que nous avons fait une pièce de théâtre. Et le concierge a dit, eh ben moi j'aurais pas la patience. À la générale, ça a été un des succès les plus immenses que j'ai vu au théâtre, je n'ai jamais vu d'aussi grand. Les gens montaient sur les fauteuils pour applaudir, les gens s'embrassaient, c'était extraordinaire. Le lendemain, il n'y avait plus que la moitié, qui criait encore plus fort. Au bout de 4 jours, ils étaient 10 qui criaient comme 1000. Et Trébor m'a dit seulement, ils ne payent que comme 10. Et alors, on a arrêté la pièce à la 13e représentation.
Jazz est venu immédiatement après, je crois.
Oui, en 1926. C'est un professeur de faculté qui est un homme très charmant, professeur d'égyptologie, enfin, qui avait été assez sévère à l'examen. Et alors, pour se venger, l'un des élèves a enterré, dans une petite île devant Marseille, il a enterré des débris de poterie qu'il avait volés au musée du Parborelli, mêlés avec des pots de fraises qui venaient de la foire d'Aubagne. Et qu'on avait convenablement noirci au feu. Et puis, dans une excursion archéologique, on lui a fait découvrir ce trésor. Et il a fait une monographie sur l'installation des Égyptiens à Marseille, longtemps avant les Phéniciens. Et quand il a su la farce qu'on lui avait jouée, eh bien, il en est mort de chagrin. C'est une histoire lamentable.
Nous en arrivons maintenant, Marcel Pagnol, à votre grande trilogie, Marius, César et Fanny. J'ai laissé dire que lorsque vous écriviez Marius, vous pensiez que cette pièce ne pouvait s'adresser qu'à un public spécifiquement marseillais. Est-ce exact?
C'est absolument exact. J'étais en train d'écrire un vaudeville, que heureusement je n'ai jamais fini. Alors j'ai commencé ce travail qui était pour moi un travail sérieux. Et pour me reposer, j'ai écrit Marius et Topaz en même temps d'ailleurs. J'écrivais Topaz pour Dulin et Marius alors pour Marseille. D'ailleurs je ne sais même pas pourquoi je l'écrivais, c'était pour m'amuser. Lorsque la pièce a été finie, je l'ai envoyée à Franck, le directeur de l'Alcazar de Marseille, qui m'a dit, mais pas du tout, on va la jouer à Paris, ta pièce, il faut la montrer à des directeurs. Je l'ai montrée à Rému, qui l'a montrée à Volterra, et on l'a reçue immédiatement au Théâtre de Paris. On l'a jouée 3 ans la première fois, après on l'a jouée encore une fois pendant au moins 1 an, puis on l'a jouée aux variétés assez longtemps aussi, plusieurs fois même. Puis on l'a beaucoup jouée dans le monde entier, ce qui m'a le plus étonné, n'est-ce pas ? Que cette pièce que j'avais écrite pour le cours Belzunce à Marseille, j'ai des photographies, des représentations à Abo, en Finlande, à Bergen, dans des petits ports suédois, c'est très étrange. Les critiques étrangers m'ont dit, c'est justement parce que c'est très marseillais, que c'est très local, que c'est extrêmement intéressant pour les gens d'étrangers. On joue aussi au Japon, Marius. J'ai des éditions ici, japonaises, que je vais vous montrer, c'était imprimé aussi. Je n'aurais jamais cru ça quand j'écrivais.
Quelle a été la part de Rému, selon vous, dans la réussite?
Elle a été très grande, n'est-ce pas? Rému était un acteur de génie, était un homme admirable. Et alors, un jour, à table, il m'a dit, Marcel, tu me dois beaucoup, mais je te dois encore plus. Et nous sommes disputés, parce que je lui ai dit, c'est le contraire. Parce qu'il fallait toujours que nous disputions entre les deux, même quand nous étions d'accord. Et on s'est disputés pendant à peu près 25 ans.
C'était un style d'amitié?
Oui, c'était une façon d'être.
Mais il y a une charnière importante dans votre carrière, Marcel Pagnol, c'est votre passage au cinéma. Comment la chose s'est-elle effectuée?
Bien, n'est-ce pas, j'avais donné à la société américaine Paramount les droits de Marius, le droit d'en tirer un film parlant. Je ne savais pas très bien ce que c'était que le cinéma. Et la Paramount m'a dit, nous allons faire ce film avec de grands acteurs de cinéma. Moi, je dis, je ne veux pas, je voudrais qu'on prenne les acteurs qui jouent la pièce au Théâtre de Paris, parce qu'ils sont admirables. Alors Paramount a dit, eh bien non, alors dans ces conditions, nous ne faisons pas le film. Je dis, bon, tant pis, ne le faites pas. Alors au bout d'un an, ils ont fini par consentir à prendre toute la troupe du Théâtre de Paris. Et ils ont fait venir un metteur en scène d'Hollywood qui était Alexandre Corda. Et je suis devenu ami de Corda, qui m'a dit, je dis absolument à ce que tu viennes avec moi tous les jours aux prises de vue. J'ai été passionné par ce nouvel art, par cette nouvelle forme d'expression. Et c'est ainsi qu'après Marius fait par la Paramount, j'ai fondé ma propre société de production pour travailler librement et à loisir Parce que dans les grandes sociétés comme la Paramount ou comme les autres grandes compagnies de films, il y a un emploi du temps très rigoureux. N'est-ce pas ? On ne peut pas tourner aussi longtemps qu'on le veut. Il est difficile de refaire une scène un mois après parce que les décors ont été détruits. Alors c'est pour ça que j'ai construit à Marseille des studios et des laboratoires où j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années.
Mais voyons, avant la découverte, je dis découverte du cinéma parlant, vous étiez avant tout un auteur dramatique. Est-ce que le cinéma vous satisfaisait entièrement ?
Oh oui, oui, parce qu'il me semble que c'est la même chose, n'est-ce pas ? Le théâtre, c'est un art, c'est un art de réalisation et qui réalise une œuvre de l'art dramatique. Et le cinéma est aussi un art de réalisation qui réalise des œuvres de l'art dramatique de la même façon, seulement avec des moyens différents, peut-être plus souples. On peut faire tout ce qu'on veut, n'est-ce pas, sur un écran. Et puis on peut recommencer quand on n'est pas content. Et puis, les acteurs ne vieillissent pas. Même mon cher Rému, qui est mort maintenant depuis bientôt 10 ans, Rému joue toujours, tous les soirs, il joue Marius, Fanny, César et le boulanger, le puisatier. Il joue continuellement et il donne à peu près 200 représentations par jour, 10 ans après sa mort. C'est là, il me semble, l'avantage le plus considérable du cinéma, le plus surprenant.
Ami, tu vas me relire la lettre de Marius bien comme il faut. Allez.
Mon cher papa, pardonne-moi, mon cher papa, la peine que j'ai pu te faire. Je sais bien comme tu dois être triste depuis que je suis partie, et je pense à toi tous les soirs.
Bon, il pense à moi tous les soirs, mais moi, grand imbécile, je pense à toi toute la journée. Enfin, continue, hein.
Pour dire de t'expliquer toute la chose et de quelle façon j'avais cette envie, je ne saurais pas te l'écrire. Mais tu n'as qu'à demander à Fanny, elle a connu toute ma folie.
Folie, c'est le mot. Ça me fait plaisir de voir que tu t'en rends compte. Continue.
Maintenant, laisse-moi te raconter ma vie. Quand je suis partie, on m'avait mis aide-cuisinier.
Aide-cuisinier. Oh, eh bien, ils vont bien manger sur ce bateau. Au bout d'un mois, il n'y aura plus que des squelettes. Ce sera le bateau fantôme.
Vous avez eu une querelle fameuse à cette époque avec les gens du théâtre.
J'ai publié en 1930, en première page du journal, un grand article disant, d'ailleurs prophétisant même, ce qui est arrivé. C'est à ce moment-là, je disais, c'est pas que beaucoup de théâtres allaient disparaître, qu'ils seraient remplacés par des cinémas, et que le film parlant apportait aux auteurs dramatiques des moyens nouveaux, et que le premier auteur de film, c'était Shakespeare. Qu'on allait pouvoir en faire réaliser Shakespeare ou Berlioz, par exemple, de la Damnation, ce qui n'avait jamais été possible sur un théâtre. Alors c'est là que Bernstein m'a tourné le dos à la Société des auteurs, avait refusé de me serrer la main. Alors je me suis retiré à Marseille, où j'ai commencé à faire des films.
Vos préférences d'auteurs dramatiques vont-elles au théâtre ou au cinéma ?
Ça ne peut guère se comparer, au fond. N'est-ce pas ? Les plaisirs que l'on a au théâtre ne sont pas du tout les mêmes que ceux que l'on a au cinéma. Au théâtre, il y a toujours une incertitude très considérable, n'est-ce pas ? De la représentation. Que vont-ils faire ce soir ? Comment ça va-t-il se passer ? Il y en a un qui a mal aux dents, tenez, vous voyez, pour mon Judas, Raymond Pellegrin, malade, a été obligé d'abandonner. Si j'avais tourné le film, il jouerait toujours, même s'il était malade.
Vos personnages de la trilogie sont devenus à l'heure actuelle des types universels, et on peut les retrouver chantant à New York, n'est-ce pas ?
Oui, en ce moment même, on joue une grande opérette qui a été faite par Joshua Logan, celui qui avait fait South Pacific, qu'on a joué pendant 10 ans à New York. Et il a voulu faire à tout prix une opérette avec Fanny. Moi, je lui disais, tu perds ton temps et ton argent. Je ne vois pas comment on peut faire une opérette avec une pièce qui est assez, en somme, assez triste. Et d'autre part, qu'est-ce que ça fera à New York ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas pu le convaincre de ne pas faire cette opérette. Il l'a fait, il avait mille fois raison. C'est un succès très considérable. On joue l'opérette depuis maintenant 1 an. Et Logan pense que ça durera encore plusieurs années. Et ils y ont ajouté des numéros américains en partant de fort peu de choses dans ma pièce. Par exemple, il y a dans Marius, à un moment donné, ils ont mis Marius et Fanny dans l'opérette. Il y a à un moment donné des Arabes qui viennent frapper au rideau de fer du bar de César et qui chantent une espèce de chœur de chanson arabe dans la rue. Ils en ont fait un chœur étonnant. Je peux vous en donner un disque si vous voulez.
Jamalik ban, 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 J نفرح ونزيد وانا وحبيبي واليوم العيد نفرح ونزيد وانا وحبيبي
Dans le cadre de l'émission « La parole est à la nuit », Luc Bérimont vous a présenté Marcel Pagnol. Un film enquête radiophonique réalisé avec le concours de Jacques Bureau et Francis Gastambide. Mise en onde, Bernard Gandré-Réty. Avec les voix de Rému, Pierre Freinet, Orane de Mazis, Charpin, Mouriès, Dulac, dans des extraits de la trilogie Marius, Fanny, César, et celle d'André Lefort dans des extraits de Topaz. Collaboration artistique Anne Spiès, assistante Hélène Delabrusse.
Cette émission a été diffusée le 7 janvier 1956. Sur la chaîne parisienne.
Les nuits de France Culture.
Le temps des amours est le quatrième et dernier tome de la série des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Roman autobiographique inachevé, Le Temps des Amours ne fut publié qu'en 1977, 3 ans après la mort de Pagnol, qui avait cependant déjà autorisé la publication dans des magazines de bon nombre des textes qui composent ce livre. La tragédie de l'agneau, l'agneau en un seul mot, est le troisième et long chapitre du Temps des Amours. Nous allons l'entendre lu par François Perrier en 1971 dans l'émission « Bonne nouvelle, grand comédien » de Patrice Galbeau. On y retrouvera le petit Marcel et son ami Lagneau, élèves en classe de 5e du lycée Thiers de Marseille.
La tante, très maigre et très grande, attendait sous un chapeau pareil à ceux des dames de l'armée du salut, et elle avait des yeux immenses, bleus comme la mer. Nous nous avançâmes. « Voilà, dit l'agneau, c'est Marcel. » Sans même me regarder, la mère demanda d'une voix étouffée, « Tu l'as ?» L'agneau lui tendit le bulletin. À cette vue, la tante poussa un cri étranglé, « Mon Dieu !» Et elle appliqua la paume de sa main sur sa joue comme pour soutenir sa tête. La mère déplia le papier et s'élança vers le réverbère. La tante la suivit, tenant le parapluie ouvert. La pauvre femme essaya de lire les petites lignes noires qui allaient avoir tant d'importance pour la paix de son ménage à travers la poussière de pluie que la lumière faisait briller. Je voyais trembler sa main qui était grasse, blanche, avec une bague à chaque doigt. Elle ne pouvait pas lire et la tante prit le bulletin. D'une voix brisée, elle dit « A lancer une bille, une balle ?»« Une boule puante, » dit l'agneau. Elle répéta deux fois cette phrase, avec des intonations différentes, comme si elle espérait en changer le sens. Puis elle dit avec force « Et d'abord, pourquoi est-il permis de vendre des boules puantes à des enfants ? Est-ce qu'on leur vend des revolvers ? Elle est jolie, la République. C'est le gérant du bazar Cibier qui devrait venir faire cette consigne. C'est lui qui l'a lancé, cette boule puante. Il l'a lancée dans la classe d'histoire quand il l'a mise dans la main de ce pauvre petit. » « Calme-toi, Anna, » dit la mère, « ne parle pas si fort. » Elle se tourna vers son fils. « Tu es sûr qu'il a prévenu ton père ? Il m'a dit qu'il lui enverrait un double à son bureau. » « À son bureau !» répéta la tante indignée. « À son bureau ! Quelle méfiance !» Il me sembla que cette méfiance abominable était en somme justifiée, mais que les femmes, et surtout les tantes, ne raisonnaient pas comme nous. La mère se raidissait, mais je vis qu'elle avait des larmes dans les yeux. Elle murmura « S'ils l'ont envoyé ce matin, elle a dû arriver au courrier de 6 heures, et nous allons le trouver à la maison. » « Écoute, » dit l'agneau, « il faut dire à papa que c'est une punition injuste, parce que c'est pas moi qui ai lancé cette boule. Nous dirons que c'est Marcel. » Il ne le croira pas, dit la tante. Et s'il le croit, dit la mère, il viendra au lycée demain matin pour protester. Et alors, ils étaient là tous les trois, muets, immobiles, sous la petite pluie, désolés. Et soudain, l'agneau, lâchant ses livres, s'élança vers sa mère et se cramponna à sa taille en sanglotant. La tante fondit en larmes sous le parapluie tremblant. Je fus bouleversé par ce spectacle. Tout en ramassant les livres dispersés du malheureux, j'avais bien envie de pleurer moi-même. Alors, je pensais au sacrifice de l'agneau qui avait fait pour moi la consigne du pendu, et je pris une décision héroïque. Écoutez, madame, moi j'ai une idée. La tante Octante ouvrit ses yeux immenses. Quelle idée, Irène, il a une idée, quelle idée! Si vous voulez, moi je vais lui dire à monsieur l'agneau que c'est moi qui ai lancé la boule puante. Et puis, je lui expliquerai que je suis boursier et que s'il va voir le censeur, moi on m'enlèvera ma bourse et que mon père est instituteur et que peut-être il en mourrait. Vous feriez ça, dit la mère angoissée. Je devins héroïque. Oui, je le ferai tout de suite. La tante me regarda de ses yeux de folle. Elle poussa une sorte de gémissement et elle dit « C'est Dieu qui envoie cet enfant. » Nous descendîmes à grands pas la Canebière, car l'agneau habitait la rue de Paradis, celle de la riche bourgeoisie. Et tout en marchant, les deux femmes me faisaient la leçon et mettaient au point le scénario de la tragicomédie. L'agneau me tenait le bras et tout en niflant, il murmurait « Ça va marcher, ça va marcher. » Je commençais à être inquiet. L'héroïsme, c'est comme le soufflet au fromage. Ça ne supporte pas très bien l'attente. Je dis soudain « J'espère qu'il ne va pas me frapper. » « Certainement pas, » dit la mère, « il est sévère, mais il n'est pas fou. » Et puis, dit la tante, « nous serons là toutes les deux. » « Il va peut-être écrire à mon père. » « Je ne crois pas, » dit la mère. « En tout cas, s'il le fait, moi j'irai le voir, votre père, pour lui dire toute la vérité, et je suis sûr qu'il sera fier de vous. » La tante mit sa main sur mon épaule comme pour s'assurer de ma personne, tandis que l'agneau tenait toujours mon bras, et tous deux me poussaient en avant vers le sacrifice. C'était vraiment une belle maison. L'escalier était éclairé à l'électricité, il y avait un tapis rouge sur les marches et le premier poteau de la rampe était remplacé par une femme en marbre qui avait une robe en bronze. C'était superbe. Nous montâmes lentement au premier étage sans faire de bruit. Les deux femmes s'arrêtaient toutes les trois marches pour écouter. Était-il déjà rentré ? Allions-nous le trouver dans le vestibule, énorme, et la canne à la main ? Non, il n'était pas rentré. La mère de l'agneau me conduisit dans un salon si beau qu'on aurait dit un petit musée. Et elle me fit asseoir dans un magnifique fauteuil noir, en bois de piano, mais tout tortillonné en spirale. Puis elle me dit « Restez ici, il ne faut pas qu'il vous voie tout de suite. Quand il arrivera, nous le préparerons et je viendrai vous chercher au moment voulu. N'ayez pas peur, ça va se passer très bien. » Elle allait sortir, mais elle se ravisa et prit sur un meuble une grande boîte de carton toute pleine de glands en chocolat et un petit panier rond surmonté d'une ganse de ruban et garni de fruits confits de toutes les couleurs. « Tapez là-dedans, » me dit-elle, « et n'ayez pas d'inquiétude. » C'était bien facile à dire, et je pensais tout à coup que cette tendre mère avait sans doute plus de sollicitude pour les fesses de son fils que pour les miennes, et que j'allais peut-être payer pour lui. Mais quoi, j'avais une dette de reconnaissance envers l'agneau, et puis quand le vin est tiré, il faut le boire. Je pris deux chocolats à la fois, car je craignais de n'avoir pas beaucoup de temps pour profiter de l'aubaine. Je n'entendais aucun bruit. Tout en mastiquant les chocolats, j'admirais le somptueux décor, et je me levais pour admirer de plus près tant de merveilles. Sur la cheminée, entre deux grands bougeoirs de verre à plusieurs branches, se dressait une pendule dorée. Au-dessus du cadran, il y avait une petite statue qui représentait une jeune femme toute nue. Elle courait si vite qu'un seul de ses pieds touchait le sol et encore tout juste du bout de l'orteil. L'autre pied traînait en l'air bien loin derrière elle. Tout en courant, elle tirait avec un arc et autour d'elle, c'était plein de chiens bondissants. Je m'approchais pour toucher du doigt sa poitrine, qui était superbe. Mais je constatais que dans ce tableau magnifique, il manquait le principal. L'arc n'avait pas de corde. Il me sembla que c'était bien dommage, et je décidai de conseiller à l'agneau d'y mettre un élastique double, doré avec de la poudre d'or. Comme je n'entendais toujours rien, je pris en hâte un chocolat fourré. Sur une espèce de table dorée, elle aussi, j'admirais de petits éléphants en porcelaine, des statues de soldats en couleur, des poupées japonaises avec de vrais cheveux, un petit âne avec de vrais poils qui balançait la tête quand on le touchait. C'était beau. Il y avait autant d'objets d'art que dans la vitrine d'un bazar. Après avoir choisi une petite orange confite, j'admirais le lustre pendu au plafond. Il y avait au moins 10 lampes électriques plantées au fond de tulipes en perles. Au beau milieu, en dessous, un ange en verre blanc planait sur des ailes vertes en jouant d'une trompette en or. Je pensais que ça devait être féerique quand toutes les lampes étaient allumées pour recevoir des invités. Confondu par la vue de tant de richesses, j'admirais le caractère de mon ami. En découvrant ce luxe, je découvrais sa modestie, car il ne m'avait jamais parlé de sa fortune et il était aussi gentil qu'un pauvre. Je n'hésitais donc pas à prendre un abricot confit tout verni de sucre, et je commençai la dégustation lorsque j'entendis claquer une porte, puis une voix épaisse et sourde gronda, puis une voix de femme qui parlait très vite, puis ces deux voix à la fois, puis une autre porte, puis je n'entendis plus qu'un murmure, et je retrouvais dans ma bouche le goût de l'abricot. Je pensais, elles sont en train de le préparer. J'espérais que cette préparation serait assez longue pour me permettre de mener à bonne fin cet abricot dont la dernière moitié s'était collée à mon palais. La tante ouvrit soudain la porte. Elle souriait, mais je vis bien qu'elle le faisait exprès pour me rassurer. D'un signe de tête, elle m'appela. Je la suivis. L'agneau n'avait pas exagéré, son père était aussi grand et aussi large qu'une armoire. Ses cheveux grisonnants, coupés courts, se dressaient tout raides sur sa tête, et ses yeux noirs, petits et perçants, s'abritaient sous des sourcils énormes, d'où sortaient des pattes d'araignée. Debout, près de son bureau, il tenait à la main le bulletin. Dès que je parus, il parla d'une voix rugueuse, une voix de général enroué. « Alors c'est vous, monsieur, qui lancez des boules puantes dans les classes du lycée ?» Je baissai la tête humblement et je ne répondis rien. « Et de plus, vous laissez punir un camarade à votre place. » Je gardais une attitude accablée et je regardais le tapis. Il était bordé d'arabesques vertes sur un fond rouge. Alors sa voix devint encore plus forte. « Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ?» Les bras croisés, il attendait une réponse, mais l'abricot paralysait ma langue, alors il répéta « Est-ce que vous vous rendez compte ?» La tante répondit pour moi. « Mais oui, Édouard, il se rend compte. »« Mais non, dit-il avec force, il ne réalise pas. Il faut que je lui mette les poings sur les i. » Il montra du doigt son fils, qui ne manifestait aucune gêne, mais montrait le pâle et douloureux sourire d'un martyr. « Voilà un garçon, dit-il, qui depuis le commencement de cette année, depuis le mois d'octobre, a fait des efforts considérables pour s'améliorer. Il a plus que la moyenne en conduite dans ses bulletins trimestriels. Il n'a pas eu une retenue depuis 8 mois. Et voilà que, grâce à vous, il attrape une consigne. Tous ses efforts sont anéantis. Il va falloir qu'il reparte à zéro. Oui, à zéro. » L'agneau dit froidement, « Ça, je m'en charge. » « Vous voyez, Édouard, dit ma tante, il s'en charge. »
parce qu'il ne se rend pas compte, lui non plus, de la gravité de la chose. Je suis sûr que ses professeurs vont croire qu'il est redevenu comme l'année dernière et ils vont le surveiller spécialement. Et quand on a dans l'idée qu'un élève est capable de lancer des boules puantes, c'est toujours sur lui que ça retombe. Maintenant, il faudra qu'il fasse attention à ses moindres gestes et à la prochaine sottise de n'importe qui, c'est lui qui sera consigné. Voilà ce que vous avez fait.
Édouard, dit la mère, je crois que tu exagères un peu. D'autant plus, dit la tante, que les autres professeurs ne savent même pas qu'il a été puni, n'est-ce pas, Jacques ? Jacques leva la tête et dit d'une voix douce, « Il n'y a que Monsieur Michel qui le sait, et puis peut-être Monsieur le censeur, mais il en voit tellement que la semaine prochaine, il n'y pensera plus. » Le gros homme réfléchit quelques secondes et me dit brusquement, « À votre âge, on peut faire une bêtise, mais au moins on en prend la responsabilité. Moi, monsieur, à votre place, je me serais dénoncé. »
« Il ne pouvait pas, dit la mère, je te l'ai dit, il est boursier et son père est instituteur. Ça n'est pas bien riche, un instituteur. Si ce petit perdait sa bourse, il ne pourrait plus continuer ses études. Il fallait y penser avant. Et puis quand on est boursier, on se tient tranquille. N'oublions pas que c'est avec mes impôts que le gouvernement paie cette bourse. Et voilà un monsieur qui empeste une classe et par-dessus le marché, il fait condamner mon fils. C'est une bizarre mentalité. Si c'est ça la jeunesse moderne, ça nous fera de drôles de soldats. » Ça n'est pas à coup de boule puante que nous reprendrons l'Alsace et la Lorraine.
Cette idée absurde me parut comique et je ne pus retenir un sourire.
Et il rit, s'écria le camionneur. On lui parle des provinces perdues et ça le fait rire. Ça, c'est le bouquet.
La mère intervint timidement. Écoute, Édouard, n'oublie pas qu'il a eu le courage de venir te dire la vérité.
C'est toi qui l'as forcé à venir.
Pas du tout, dit la tante. C'est lui qui nous l'a proposé. Le père fit quelques pas, puis revint vers son bureau et s'adressa à son fils.
« Alors toi, sur le moment, tu n'as rien dit. »
« J'ai dit, c'est pas moi, mais ils m'ont pas cru. »
« Ça s'est passé quand ?»«
Lundi matin. »
« Et depuis lundi matin, tu n'as pas eu l'idée de le dénoncer. »
Le visage de l'agneau exprima aussitôt une surprise indignée. « Moi, dit-il, dénoncer un ami ?
Ah non, c'est une chose qui ne se fait pas. Pourtant, tu savais que tu allais recevoir une correction. »
« Oui, je le savais, mais je comptais te dire la vérité, et j'espérais que tu me croirais. »«
Tu te trompais. S'il n'était pas venu, je ne t'aurais pas cru. »«
Tu vois, Édouard, s'écria la mère, comme tu es parfois injuste. »« C'est vrai, dit la tante pathétique. Vous ne faites jamais confiance à cet enfant. » Le père réfléchit encore un instant, puis il déclara,
« Finalement, tout n'est pas vilain dans cette affaire. »
Il se tourna vers moi.
« Vous n'avez pas le beau rôle, certes, non. » « Vous êtes venu ici, c'est vrai. Mais avant de lancer cette boule puante, vous auriez pu penser à monsieur votre père. C'est un honnête homme, monsieur votre père. Qu'est-ce qu'il dirait s'il apprenait votre conduite ?»
L'apparition de mon cher Joseph dans cet imbroglio de mensonges et d'hypocrisie me gêna horriblement. Il insista.
« Oui, qu'est-ce qu'il dirait ? Qu'est-ce qu'il dirait, monsieur votre père ?»
J'avais envie de lui répondre. « Il dirait que vous êtes une andouille. » Mais vraiment, je n'en eus pas le courage et je secouai la tête tristement 3 ou 4 fois, tout en essayant avec le bout de ma langue de décoller cette moitié d'abricot qui adhérait toujours à mon palais. Il y eut un assez long silence. Le gros camionneur marchait à pas lents de la porte à la fenêtre et il paraissait plongé dans de profondes réflexions. Les femmes attendaient, muettes, mais déjà rassurées. L'agneau, dans un fauteuil, les bras croisés, regardait le tapis. Mais chaque fois que son père nous tournait le dos, il me faisait un clin d'œil et lui tirait la langue. Enfin, le penseur arrêta sa promenade et dit
« Soit, puisqu'il est venu se confesser ici, je n'en dirai rien à personne, ni à son père, ni au lycée. »
« Bravo, dit la tante, bravo, Édouard, vous êtes un homme généreux et un noble cœur.
Mais attention la prochaine fois, ajouta-t-il en levant vers moi un index menaçant.
« Il n'y aura pas de prochaine fois, s'écria la mère qui pleurait de joie. N'est-ce pas, Jacques ?» Jacques fut infâme, car il ouvrit de grands yeux innocents et s'écria « Pourquoi me dis-tu ça, moi ? Moi, j'y suis pour rien. »
« Il a raison, dit le père. La seule chose qu'il ait faite, c'est de se laisser punir pour ne pas dénoncer un ami. Je le note. Je le note et ce n'est pas à son déshonneur. »
Tout en parlant, il s'était approché de son fils et il posa sa grosse main sur la tête frisée de cette petite canaille qui prit un air modeste et confus.
« Il a accepté la faute d'un autre parce qu'il n'a pas voulu qu'on dise « le petit l'agneau ». Le fils du camionneur a dénoncé un camarade. J'en tiendrai compte. J'en tiens compte.
Il en tenait compte, en effet, car il me semble tout d'un coup qu'il avait encore grandi. Je vis s'épanouir sur cet épais visage un sourire magnifique et deux lumières mouillaient ses gros yeux. les résultats de cette aventure furent prodigieux. Tout d'abord, l'agneau, 2 jours plus tard, trouva à son réveil au pied de son lit une étincelante bicyclette à changement de vitesse avec une selle rembourrée et des pédales à patins de caoutchouc. Le terrible camionneur s'était levé la nuit pour simuler à la Pentecôte un revenez-y du Père Noël. Cette récompense imméritée qui aggravait ses responsabilités le terrorisa. Mon ami se mit au travail avec une énergie surprenante, c'est-à-dire qu'en nourrissant Bigot de caramel mou, il lui fit faire ses versions latines. Il copia très exactement mes problèmes et il consacra les jeudis à composer ses rédactions françaises avec la collaboration de sa tante. De plus, il recopiait la leçon de latin en grosses lettres sur une feuille détachée d'un carnet et il engageait le haut de la feuille sous le col du veston de Rémusat qui était assis devant nous. Il nous présentait ainsi, comme une sorte d'homme sandwich, mais seulement visible à partir du second gradin, la fable de Phèdre où les règles sur l'emploi du superlatif étalées entre ses frêles omoplates. Toutes ces tricheries eurent une grande influence sur sa destinée, car il obtint d'abord par la fraude d'excellentes notes qui le remplirent d'orgueil et de confiance en soi. D'autre part, à force de penser au trucage de ses études, il finit par s'y intéresser pour tout bon et s'aperçut qu'il était plus facile d'apprendre ses leçons que d'organiser ses impostures compliquées. Enfin, dès que les professeurs commencèrent à le traiter en bon élève, il le devint véritablement. Pour que les gens méritent notre confiance, il faut commencer par la leur donner. Il n'obtint pas le prix d'excellence, mais le 3e accessit en latin et le 4e en français, si bien qu'au dernier trimestre, la tante éperdue de joie, mais prisonnière de son passé, dut faire encore une fois un bulletin frauduleux à cause du changement d'écriture qui aurait pu intriguer le camionneur, mais elle n'y changea pas une seule note, ni une seule observation. Ainsi, la belle bicyclette ne fut plus une escroquerie, mais une récompense prématurée. Quant à moi, mon dévouement à l'amitié me valut de grands avantages. Tout d'abord, la mère et la tante me vouèrent une reconnaissance éternelle et je fus invité tous les jeudis aux excursions devenues réelles car l'agneau n'avait plus de retenue. Ces randonnées nous conduisaient à la Treille, à la Bouilladis ou sur les collines d'Aloche. Mais à midi, au lieu de pain et de saucisson, la tante, qui était riche, nous offrait un vrai déjeuner dans un restaurant de village où il y avait même des hors-d'œuvre. Lorsque je racontais à Paul que dans les restaurants, pour commencer, on nous servait 10 de petits plats avec de tout et qu'on pouvait en prendre tant qu'on en voulait, sa voracité naturelle en fut grandement émue et il alla demander à mon père si une telle prodigalité était possible. Vers 4 heures, nous rentrions chez l'agneau. Sa mère avait préparé le goûter, c'est-à-dire des babas au rhum, des meringues, des choux à la crème et de fausses figues en pâte d'amande revêtues d'une épaisse peau verte. Elle cédait mollement sous la dent pour éclater en délices sur la langue. Parfois, vers 6 heures, Monsieur l'agneau arrivait. Il venait jeter un coup d'œil sur nos jeux. La première fois, je fus surpris et un peu inquiet en entendant son pas dans le vestibule. Il ouvrit la porte du salon, où nous faisions une partie de dames à plat ventre sur le tapis, et me dit « Ah ! Te voilà, bandit !» Et il me serra la main comme un homme. Puis il demanda à sa femme « Tu les as fait goûter au moins ?» Sans attendre la réponse, car il avait vu les assiettes par terre, il fit semblant de flairer l'air à la ronde et dit « Allons, aujourd'hui le spécialiste n'a pas lancé de boule puante. Ça sentirait plutôt la crème à la vanille. » Et son rire sonna si fort que l'ange de verre se balança gracieusement au tintement des cristaux du lustre. Au lycée, et quoique nous eussions juré le secret, l'agneau ne put résister au plaisir de raconter toute l'affaire à Berlaudier. Il amplifia, bien entendu, la colère paternelle et ne me fit intervenir qu'au moment où la canne allait retomber sur son derrière dénudé. Je m'étais alors jeté à genoux en sanglotant et mes aveux héroïques avaient arrêté le bras du bourreau. Berlaudier commença par l'injurier en lui reprochant sa lâcheté, puis il vint honorer mon courage et déclara, en me serrant les deux mains, que j'étais un homme et un ami. Cet éloge public intrigua Zacharias qui parvint à extraire de Berlaudier tous les détails de l'histoire. Alors, le fils d'Homère, à la récréation de 4 heures, chanta cette épopée au milieu d'un cercle attentif, et ses auditeurs me portèrent en triomphe à travers la cour. On célébra mon héroïsme, on admira notre amitié, mais c'est l'ingéniosité de mon invention qui me valut l'estime et la reconnaissance de toutes les 5e, et même de la cour des moyens. Depuis l'ouverture du premier lycée, une consigne avait toujours été génératrice de gifles, coups de pied au derrière, promesses furieuses d'une mise au travail immédiate en usine et de menaçantes lamentations paternelles qui duraient souvent plusieurs jours. J'avais transformé ces avanies en bicyclettes, orgies de gâteaux, félicitations renouvelées dans une atmosphère de fierté familiale, et le scénario que j'avais établi était à la portée de tout le monde. On ne se fit pas faute d'en user. C'est ainsi que Berlaudier alla un soir se confesser chez Duvernet et prendre la responsabilité entière d'un pic-cul posé sur la chaise de Pétunia. Il en fut bien récompensé, car 3 semaines plus tard, Duvernet, tout chaud de reconnaissance, alla se jeter aux pieds du papa Berlaudier et s'accusa humblement d'avoir poussé ses longs mugissements dans les couloirs pour lesquels le fils était injustement puni. Ainsi, le faux coupable s'offrait sans dommage aux reproches parfois cruels mais indolores d'un père qui n'était pas le sien, tandis que le faux innocent partait subir la punition imméritée aux applaudissements de toute sa famille, ému et fier de voir accepter dignement la faute d'un autre et sacrifier tout un jeudi sur les autels du respect de soi-même, de l'honneur scolaire et de l'amitié. La seule critique qui me fut adressée vint de Nelps, notre criminologiste, qui me parut discrètement jaloux. « C'est un truc excellent, dit-il, malheureusement, ça ne peut servir qu'une fois. » « Une fois dans une famille !» s'écria Berlaudier. « Mais ça pourra servir dans 1000 familles. C'est quand même formidable d'avoir pensé à ça. Et moi, je trouve qu'il devrait écrire des romans. »
Vous venez d'entendre François Perrier lire « La tragédie de l'agneau », un texte de Marcel Pagnol dans « Bonne nouvelle, grand comédien » en 1971. C'était un aperçu de « Au commencement de Pagnol » était le verbe, un programme d'archives que nous vous invitons à écouter samedi prochain à partir de minuit. Le cinéaste Pagnol y occupera une grande place, mais nous y entendrons aussi l'écrivain à travers des lectures de ses œuvres, notamment par les voix de Jacqueline Pagnol et par Pagnol lui-même. Et d'ici là, cette nuit et toutes les nuits dès minuit sur France Culture, nous vous proposons une sélection d'archives à télécharger et réécouter quand vous voulez sur le site et sur l'application Radio France à la page des nuits. Les nuits, le jour, l'équipe des nuits vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de France Culture.